Est-ce que tu leur as pas fait voler en éclats leur mythe en leur montrant qu'il y avait une autre chose que les plumes, les strass et les fossiles et qu'on pouvait mener une vie pleine à l'intérieur de cette cage dorée, très dorée, mais néanmoins une cage?
Oui, il y en a d'autres qui l'ont fait, qui sont sortis de là.
Tu as servi d'exemple? Tu as l'impression d'avoir servi d'exemple un peu?
Je sais, oui, il y en a une en particulier qui a le même âge que moi, qui est née la même année, le même mois, qui a débuté en même temps que moi. Il lui a été insupportable de me voir partir. Et elle s'est débrouillée et elle a fait quelque chose aussitôt. Et elle me dit, je ne peux pas rester au Caroussa sans toi, savoir que toi tu t'es réadapté et pas moi. J'en avais presque honte et elle l'a fait. Puis d'autres ont essayé de le faire avec plus ou moins de bonheur. Mais travailler la nuit, c'est quelque chose de très important. On aime le travail de la nuit, surtout qu'au Carrousel, après, les choses s'étaient un petit peu disloquées. On n'était plus au Carrousel de la rue du Colisée, on était au Carrousel de Montparnasse. Et alors, à Montparnasse, les artistes avaient le droit d'aller dans la salle, et elles faisaient des connaissances, et elles étaient enchantées. Naturellement, ça n'avait pas la même classe que le Carrousel où tout était si snob et où on avait beaucoup de tenues, etc. C'est-à-dire qu'il y avait eu un relâchement, si j'ose dire, dans la police. Parce que la police avait été extrêmement stricte et poursuivait les gens longtemps.
Pas de contact entre les artistes et la
Ah non, non,
clientèle.
non, pas de contact. Alors, il n'est pas question de. Que des gens comme nous puissent parler aux gens normaux. C'était cela le terme.
Et tu me disais au début de l'émission que tes autres collègues vous reniez, toi et Capucine, justement parce que vous osiez sortir en femme à l'extérieur. Comment a été acceptée ta transition, acceptée ou pas acceptée, ta transition au sein du Carrousel, et comment à l'extérieur se faisait le rapport avec le monde extérieur, justement? Vis-à-vis des travestis et des trans, est-ce qu'ils étaient acceptés? Pas du tout. Est-ce que les flics étaient toujours
Non, alors d'abord,
répressifs?
Les anciens travestis qui vivaient en travestis se sont sentis un petit peu repoussés parce que la clientèle n'était plus sensible aux femmes 1900 qu'on voyait qui se mettaient des plâtres sur la figure pour cacher des barbes d'hommes de 40-45 ans. C'était ce qu'on appelait nos vieilles à l'époque. Et qui passait avec des plumes. Nous, on arrivait jeunette, jolie, et les gens disaient, ce n'est pas possible. Alors naturellement, elles nous disaient, vous êtes des bêtes de cirque, c'est tout ce que vous êtes, vous vous montrez. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Hein? Et sentaient qu'on leur prenait la place, quoi. Parce que le Carrousel, qui était un cabaret de travesti, est devenu peu à peu, enfin en 2 ans, c'est devenu un cabaret de transsexuel. Et même Madame Arthur, en grande partie. Donc, on entendait des fois, on entendait dans la loge des cris comme ça, qui s'énervaient contre nous. On criait, les hormones crèveront dans d'atroces souffrances. Il y avait des phrases qui sortaient comme ça. Et puis, on se cognait du coude, elles sont jalouses. Voilà, mais des bêtises. C'était un peu... Enfin, il fallait le faire. Et dans la rue, alors, tout dépendait si on était à Pigalle et qu'on était connu. Enfin, moi, quand j'ai fait venir à ma mère à Paris pour qu'elle vive avec moi, c'était en début 56, j'avais eu un appartement, je ne sais pas comment je m'y étais prise, mais il a fallu que je laisse quelques temps après, dans les HLM de Paris. Et j'avais un appartement, mais personne ne savait qui j'étais. Pourtant, je n'avais pas du tout mon changement d'état civil. Enfin, personne ne savait qui j'étais. C'était d'ailleurs ni au nom de ma mère ni au mien. C'était quelqu'un qui avait eu un passe-droit pour avoir un appartement et qui avait fait une fleur au patron, enfin, pour rembourser le patron de quelque chose qu'il lui devait. Et c'est moi qui profitais de cet appartement à la porte de Saint-Ouen. C'est là que j'habitais, mais personne ne savait qui j'étais. Il ne fallait pas qu'on sache.
Alors, tu fais toute une carrière professionnelle comme enseignante à Paris, enfin dans la région parisienne. Et
une question au sujet.
Ah bon, oui.
Je voulais savoir comment ça se passait avec les élèves. C'était ça que tu voulais dire, non?
Voilà.
Quelle relation tu avais avec les élèves? Comment ça se passait, quoi?
Bon,
c'était quel tranche d'âge en plus?
Alors, les stages ont été faits plutôt dans des lycées. Mais quand j'étais titulaire, j'ai été nommée dans un collège, d'abord à Cherbourg, et ensuite au collège de Pablo Picasso à Garges-lès-Gonesse. Je ne suis pas un professeur qui a été chahuté, j'étais un professeur qui tenait absolument à tenir les classes et à se faire respecter, comme on dit à Garges-lès-Gonesse, parce que les élèves entre eux se font respecter. Et alors je passais quelquefois pour relativement sévère, et pourtant il me semble que je n'ai pas été. Mais
les profs disent ça.
Oui, je ne sais pas. En tout cas, je peux dire que quand j'ai puni, j'ai quand même tenu compte des possibilités de mes élèves. Il y avait des élèves qui étaient là, qui ne savaient ni lire ni écrire en quatrième, voire en troisième. Ceux-là, ils peuvent se flatter de n'avoir jamais été punis par moi, parce qu'ils ne pouvaient pas. Donc, je punissais surtout pour insolence. Je pouvais pas supporter les grossièretés ou que les élèves se promènent, se lèvent.
Et tu comprends l'arabe.
Oui, je comprends l'arabe parce qu'une fois, il y a une fille qui était particulièrement insolente. Elle était intelligente, c'était une Algérienne, elle était intelligente. Mais la pauvre enfant était née en Algérie. Elle avait été amenée en France, elle avait fait un peu l'école maternelle en France. On l'avait remise en Algérie, ses parents étaient repartis en Algérie. Et elle était revenue en France, elle avait été chassée parce qu'elle était étrangère avec son père ou je ne sais quoi, et elle était ramenée, elle était passée par Cherbourg, ramenée dans un coffre de voiture, et elle était là. C'était une enfant donc vive, intelligente, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas écrire. Il lui était impossible d'écrire et impossible de se tenir tranquille. Et alors une fois, je l'ai obligée, elle ne voulait pas sortir ses affaires. Je l'ai obligée à chercher son cartable, etc. J'ai dit, attention, tu vas sortir tes affaires et tu vas essayer d'écrire. Et quand j'ai tourné le dos, elle me dit une insulte en arabe. Alors son petit copain lui dit, attention, elle comprend l'arabe. Et c'était trop tard, c'est vrai, je lui ai donné une taloche.
Donc tu mènes cette vie professionnelle donc avec des enfants.
Oui.
Je veux dire, et là, tout se passe bien. Il ne s'est jamais rien passé par rapport à ta situation personnelle.
Ah non, par rapport à ma situation personnelle, il ne s'est rien passé.
Jamais rien su. Mais toi, tu ne l'as jamais dit, persuadé que dans le milieu enseignant, face aux parents d'élèves, s'ils le savaient, ça se passerait très différemment.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes, il y a plusieurs problèmes. C'est vrai qu'il faut garder ces choses-là secrètes si on veut avoir la paix. Moi, je tenais à avoir la paix. Là, avec les enfants, c'est pas possible, parce qu'un jour ou l'autre, ils auraient crié « Trablot, Trablot !» C'est plus fort qu'eux. Bon, il fallait pas qu'ils le sachent. Les parents d'élèves auraient condamné. Les collègues auraient sans doute condamné. Pas tous. Il y a quelques élèves, quelques collègues qui ont été tout à fait extraordinaires avec moi, qui étaient très charmants avec moi. Et c'est vrai, je me suis dit quelquefois, est-ce qu'il n'est pas malhonnête de ne rien dire, parce que si on venait à savoir, ces femmes qui sont des amies pour moi, qui me traitent avec tant de gentillesse, elles me diraient peut-être, tu nous as trompés. Et ce n'était pas mon sentiment, parce que naturellement je ne me considérais pas du tout comme le travail de service. Et je me disais, il faudrait peut-être que j'en mette une ou deux au courant dans le plus grand secret. Elles le méritent bien, elles sont trop gentilles avec moi, elles le comprendraient. Et puis, d'abord, je me suis dit, quand on a un secret et qu'on le partage, c'est qu'on n'est pas capable de le garder.
C'est pas un secret.
C'est plus un secret. Et puis, je me disais, quoi leur dire? C'est toujours pareil. Quoi dire? Avec quels mots? Quoi que j'ai pu dire après, je sais qu'elles auraient traduit, c'était un homme, c'était une femme, voire c'était un homme qui se prend pour une femme, je ne sais pas quoi. Donc, c'était indicible.
Alors, qu'est-ce qui te fait l'écrire? Parce que tu l'as dit.
Et tu t'es montré.
C'est-à-dire qu'arrivé à la retraite...
Alors, j'ai toujours écrit, à vrai dire. J'ai toujours plus ou moins écrit, et ça depuis l'adolescence. J'ai écrit des poèmes, tout ça a été jeté au déménagement. Mais j'ai toujours cherché à écrire. J'ai cherché à écrire, et même à un moment donné, j'avais cherché à publier. Et j'avais eu des propositions, et puis tout, on m'a demandé de changer quelque chose dans mon manuscrit, etc. C'était chez Grasset et chez De Noël à l'époque. Il y a longtemps, c'était en... On m'a proposé ça en, je crois, 87, 88. Et puis je me suis dit, non, si on me demande de changer trop de choses, c'est que c'est mal écrit, je vais reprendre tout ça, je fais trop de choses à la fois, j'ai recommencé à écrire. Et quand j'ai été à la retraite, quand on est à la retraite, il manque quelque chose. On ne travaille plus. Et on sent comme une sorte de vide. Et donc, j'ai fait mon manuscrit, et je l'ai proposé, il n'a pas eu beaucoup de succès, mais enfin, il y a eu Haussmann.
Sur France Culture.
Oui. Ah oui, ça, une fois qu'il était publié. C'était plus mon manuscrit, c'était devenu mon livre. Non. Alors, bon, après, il était publié. C'est vrai que j'ai eu une émission sur France Culture avec Hélène Azéra, qui m'a fait une émission formidable, qui m'a fait le plus grand bien. Je me suis sentie très flattée d'intéresser Hélène et qu'elle y intéresse quelqu'un, c'est vrai. Et j'étais contente. On aime faire quelque chose et on aime que ce qu'on fait soit apprécié.
Alors, ma question est quand même précise.
Oui.
C'est qu'est-ce qui fait que, alors que tu as une vie publique en tant que Bambi, une vie professionnelle en tant que Marie-Pierre, mais personne ne sait que Marie-Pierre est Bambi, qu'est-ce qui fait que tu éprouves quand même le besoin de te montrer maintenant, de venir d'écrire que tu es une personne trans, que tu as fait une transition, que tu étais capable d'avoir une vie professionnelle sans le dire, donc être socialisée dans un rôle féminin, dans un emploi féminin, enfin dans ta vie de femme. Et qu'est-ce qui fait que tu as quand même besoin de retrouver, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est un mot que tu apprécies ou que tu rejoins, une sorte de communauté, hein, pour être avec des gens comme toi, comme nous.
Oui, aussi, oui, oui, retrouver.
Entre c'est, trans, c'est... qu'est-ce qui fait que tu as ce besoin-là? Parce que c'est quand même un besoin.
Ce qui fait que j'ai besoin, le fond de ma pensée, je ne peux pas le dire. Mais c'est vrai que quelqu'un qui m'a demandé, après mon roman, qui m'a dit, mais n'écris pas de roman, Monique, mais n'écris pas de roman, tu as la possibilité d'écrire ton autobiographie. Ce sera beaucoup plus intelligent d'écrire ton autobiographie parce que tu éclaireras les gens et tu seras utile à d'autres. Ton roman, il est très bien, mais enfin, tu prépares un deuxième tome, un troisième tome. Il faut que tu fasses une autobiographie, que les gens sachent et que les gens sachent que tu as réussi quelque chose. Ça peut être utile, ça sera d'ailleurs très intéressant. On m'a dit je me chargerai de l'éditer, etc. Et moi, ça m'a beaucoup stimulé. Et en effet, alors que dans mon premier livre, je ne disais rien, il fallait comprendre derrière les mots. Là, j'ai écrit ma biographie. Et j'ai dit les choses, je crois aussi clairement que je l'ai dit là maintenant en parlant, en donnant peut-être plus de détails quelquefois. Et en effet, on m'a fait prendre conscience que j'avais vécu retiré et que j'avais vécu un petit peu égoïstement. Et puis, je suis entrée en contact avec, Sophie Simon, mais je suis entrée en contact avec son texte, et c'est la personne qui l'a édité. Qui voulait que j'écrive ça. Et je me suis dit vraiment, tous les problèmes ne sont pas réglés. Et en particulier, ce problème de 1 et de 2 à la sécurité sociale qui fait tant de mal à tant de personnes. Peut-être que, bon, puisque j'ai vécu ma vie, puisque j'ai fait ce que j'avais à faire et que je suis à la retraite, quand on est retiré, c'est bien, il s'agit bien de ça, eh bien, je vais dire, quand l'occasion se présentera, qu'il est possible de s'occuper d'enfants, qu'il est possible de faire son travail, et que personne ne s'en doute et que personne ne m'a fait aucun reproche. Au contraire, j'ai été médaillée. Qu'est-ce que j'ai reçu comme
l'ECPA
académique. J'ai eu les palmes. J'oubliais. On en a tellement ri parce qu'entre nous, entre les professeurs, on disait « Oh, c'est une médaille en chocolat ». En fait, ça m'a fait quand même plaisir, pas que je dise le contraire.
Tout le monde ne l'a pas.
Tout le monde ne l'a pas, puis surtout, ça m'a quand même montré que j'avais été appréciée. Si quelqu'un me dit « En fait, vous avez toujours fait mal votre travail », je dis « Alors pourquoi ?» Voilà, c'est ça.
Bon, eh bien, malheureusement, l'émission touche à sa fin. Il va falloir.
On va quand même rappeler le titre de l'ouvrage.
Voilà.
J'inventais ma vie.
Donc, de Marie-Pierre Isser, aux éditions Haussmann.
Alors, c'est sur le site de Bistouri, hein, puisqu'on
oui.
avait déjà parlé de ce livre il y a
une fiche,
un an.
Voilà. L'émission donc sera en direct. L'émission en direct sera rediffusée sur le site de la radio Bistouri. Oui. Donc, http://bistouri.fr. Vous trouverez également la page que Karine et Maud sont contrefaçon, la très belle page de photos que Karine et Maud ont mis sur
j'ai vu qu'elle l'avait modifiée d'ailleurs.
Donc on remercie Marie-Pierre Bambi d'être venue avec nous, ça nous a fait très très plaisir. On remercie donc tout le monde, je ne refais pas le
mm-hmm. oui,
petite bise à Hélène qui mange encore une nonnette. Le dernier morceau de musique que Marie-Pierre a choisi, c'est France Gall, c'est Résiste, et je crois que c'est un peu pour ça que tu l'as choisi.
Oui, c'est le titre qui m'intéresse surtout, parce qu'en effet, la vie, c'est souvent résister à tout ce qui nous empêche de vivre.
Merci Marie-Pierre. Bistory, oui, le 15 décembre fini, la prochaine émission le 19 janvier.
Merci. Je précise juste que ça a été tellement court, je pense qu'on fera une deuxième émission obligé. Avec toi, Marie-Pierre.
Obligé. C'est obligé.
Très, très volontiers.
Merci, bonsoir.
Bonsoir.